21 janvier 2007, ma femme, à mardi, ma femme va chercher le journal. Et elle revient, et alors, en première page, il avait Varga, grand banditisme. Ils étaient à 9-10 truands. Pas de sang sur les mains, mais des braquages avec des bijoux, tout le bazar. Il y a eu des tirs d'armes, bien sûr, mais jamais de sang. Et alors, bon, mais c'était quelqu'un de. Un grand bandit. Courant les chemins, quoi. Et alors, je dis à mon épouse, tiens, bah, après-midi, on va aller à la cour d'assises. Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire là? On n'a rien à foutre là et tout le bas. Mais si, pour avoir un aperçu. Quelquefois, quand nous rentrions à 23h, il avait un procès à la télé. Ben, 1h du matin, une fois ma femme m'a dit, bon, il est 1h, maintenant tu vas éteindre ta télé dans notre chambre. Et que, regardez. Oui, on a ça dans la tripe, quoi, dans la peau, quoi. Même mon épouse, quand il a 2 mois de vacances, elle aspire la première semaine de septembre pour y retourner. Pas par plaisir du malheur des autres, mais ce qui fait qu'il nous attache à continuer les cours d'assises, c'est pour soutenir les victimes et la famille des victimes dans leur malheur, dans leur peine, dans leur chagrin.
Au palais de justice de Bruxelles, on les appelle papy-mamie. Jacques et Marie-Claire Houbeck en conviennent, ils sont accros aux affaires de justice. Et pas des moindres, les crimes jugés en cour d'assises. Des affaires graves, violentes, parmi les plus retentissantes du pays. En 5 années, ces septuagénaires retraités ont assisté à plus de 80 procès. Varga, Storm ou encore les amants diaboliques, rien ne leur échappe. Leur objectif, apporter leur soutien aux victimes et témoigner leur admiration aux avocats, dont ils conservent les signatures comme autant de petits trésors.
Pour Jacques, que je suis passionné d'affaires de justice, le 4 septembre 2012, amicalement. C'est quelque chose de bien, hein? Un avocat de tel talent. Et maintenant, je suis en lecture, mais j'ai arrêté depuis. Je vais reprendre ça, hein? Après mon opération, je suis à la fin du livre, quoi. Alors là, c'est. Ça, j'étais content, j'ai eu les larmes aux yeux quand la petite jeune fille me l'a offert, Anne-Sophie. Elle fait des études d'avocate aussi. Le monde actuel, il est en train de décliner dans tous les sens. La misère, la méchanceté, la violence. On attaque les gens, les vieilles personnes, pourquoi? Pour 50 euros, pour avoir leur cam. Des petits jeunes de 17-18 ans pour dire de se faire plaisir à soi-même. Moi, je trouve que eux, dans ce sens-là, ils sont égoïstes. La violence, ça m'intéresse parce que la violence, depuis 5-10 ans, là, elle a augmenté à mon idée de 40%. De mon jeune âge, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas des meurtres à coups de couteau, se battre maintenant. Les jeunes, ils ont. Des armes de poing. À 13-14 ans, des armes de poing, des couteaux, des Stanley, tout le bazar, hein? Des affaires qui tranchent et qui poignent, qui piquent. Pourquoi? De nos jeunes temps, on n'avait pas ça, on avait ses deux mains. Si on voulait avoir un petit tricks, ben, on se battait avec un collègue qui nous emmerdait, quoi.
Marc Elsmortel est avocat pénaliste et auteur de pièces de théâtre inspirées de faits divers. Deux métiers qu'il exerce en parallèle et qui font de lui un observateur avisé de ce qui se passe en cour d'assises. Pour lui, pas de doute, on a affaire ici à un petit théâtre, lequel fournit au peuple son lot quotidien de sang.
La justice est quelque chose qui se trouve dans les tripes des gens et les gens s'intéressent beaucoup. Pourquoi? Parce que évidemment, les médias ont augmenté. Il n'y a plus que la télévision ou quoi que ce soit. On ouvre son portable, on a toutes les nouvelles en direct, etc. Donc les gens sont de plus en plus concernés par la justice du fait que les médias ont augmenté. L'un va avec l'autre. Donc même si quelqu'un ne sait pas lire, il entend. Donc de plus en plus, la population est concernée par la justice. En plus de ça, ça l'intéresse. C'est encore toujours ce que moi j'appelle en latin « panem et circenses », c'est du pain et des jeux. La justice, c'est quelque chose qui occupe le public. Hein. C'est quelque chose, il n'y a rien à faire, les crimes de sang, tout ça, ça passionne le public. C'est ce qu'on appelle la sensation, mais écrit S-A-N-G. Hein. Quand je dis la sensation, il n'y a rien à faire, ça interpelle, ça se trouve dans les gènes de l'homme de s'intéresser à la justice. La population aime bien lyncher, ou bien aime bien, au contraire, comme dans l'affaire Dreyfus dans le temps, prendre parti.
Rajasnoussi n'a pas attendu d'assister à des procès en cour d'assises pour écrire. Poésie, prose, nouvelles, Raja écrit de tout et ce depuis toujours. Traductrice au sein du palais, c'est au contact des affaires les plus sordides qu'elle puise l'essence de son art. Synthétiser, en peu de mots, les âmes tourmentées jugées en cour d'assises.
Alors c'est une poésie satirique écrite sur le procès de Léopold Storm. Et alors, à un moment donné, Léopold en fait laisse un message vocal sur la boîte à messages de son père après l'avoir quasiment scalpé. Genre, papa, voilà, j'étudie, machin, tout ça. Un message vocal qu'on a passé à la cour d'assises. Allô, papa, c'est Léopold. Réponds, mon gars, il veut te causer, te rassurer. Oui, mon bébé, dirait Xavier. À peine scalpé. Tout est ok, sauf qu'à la mer, il fait mauvais. T'entends, Xavier ? C'est dur à croire, mais ton Léo, il veut savoir comment ça va à l'abattoir. Qui sait, tu aurais pu, pauvre Xavier, ressusciter. Allons, François, fais un effort, prends ce cornet, rappelle ton môme. Même si t'es froid, en perte de voix, car égorgé, 6 heures avant. Allô, papa ? Tu peux me rappeler, tu sais ? Léo s'en fout. Ose envoyer de gros bisous. Le père François, livide, inerte, est bien en perte de ses moyens. Léo poursuit, reste poli, souhaite au père la bonne nuit. Comme ironie, on ne peut faire pis, dirait le jury, la horde de psy, même la famille. Public assis, gens du pays, des saints d'esprit. On ne peut pas sortir indemne d'une cour d'assises. Une cour d'assises n'est pas l'autre, mais de manière générale, ça finit, ça touche, ça fait réfléchir, ça pousse à changer de vie, à repenser le monde, à repenser notre société et surtout à se rendre compte que du degré de perte de valeur, il n'y a plus de valeur. C'est pour ça qu'il y a autant de crimes, on n'a plus le respect de la vie humaine. J'écris depuis l'âge de 13 ans. J'écris, je suis portée sur l'écriture, je fais de la prose, je fais de la poésie, mais à tendance surtout satirique, voilà. C'est mon hobby, on va dire. Pour moi, c'est toujours un éternel apprentissage, je vous dis, moi, jusqu'à maintenant, je ne me lasse pas, je vais même quand c'est pas une cour d'assises dans laquelle je suis, mais j'y vais pour apprendre. J'ai une soif d'apprentissage parce que, d'abord, comme je disais tout à l'heure, une cour d'assises n'est pas l'autre. Et puis, on apprend sur le plan surtout des psychanalyses qui sont faites. Parfois, on a affaire à un collège d'experts, on a affaire à des pros, on va dire, entre guillemets, qui viennent déverser leur savoir. Et alors, on apprend aussi sur la manière sur la balistique, parce que bon, les moyens de tuer sont assez diversifiés, il faut dire. Bien sûr, c'est assez spectaculaire de par la constitution même de la cour. Il y a un jury, c'est assez spectaculaire. Mais c'est une image, un reflet en fait de la société. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours affaire à des délinquants, je veux dire, notoires, des gens qui des, je sais pas moi, des SDF. Tout le monde peut tuer. Des gens nobles, des gens BCBG, des gens des SDF, des jeunes, des moins jeunes, des personnes très âgées, des femmes. Les femmes moins, hein, il faut dire. Hein. En général, c'est les hommes qui tuent les femmes. L'inverse est plus rare. Mais voilà, donc c'est une société assez, un échantillon de la société assez éclectique qui passe devant la cour d'assises. C'est pour ça que je parle d'âme humaine. Et il y a une affaire qui m'avait particulièrement frappée. C'est un monsieur très âgé qui se trouvait ici depuis peut-être 40 ans en Belgique, complètement, on va dire, intégré. Intégré, bon, il ne parlait pas la langue, mais il a fait quand même, il a fait en sorte que ses enfants étudient, etc. Mais qui a fini, après 40 ans de vie commune, par tuer sa femme. Pourquoi ? Parce que sa femme a osé prendre sa liberté, elle a été chez un juge de paix, elle a demandé la séparation, elle a osé. Et le gars, il s'est promené pendant peut-être une semaine ou 10 jours avant avec son mobile. C'est-à-dire, il avait un grand couteau, il avait les papiers du juge de paix. Et alors, il a été en plein marché à 10h du matin, poignarder sa femme. Et bizarrement, ce gars-là a eu 5 ans. C'est ça qui est un petit peu, je veux dire, contradictoire et paradoxal. Il a tué, c'était quasiment un assassinat, puisque c'était prémédité. Et il le disait, oui, j'avais l'intention de la tuer. Il n'a eu que 5 ans, pourquoi ? Parce que ses origines, en fait, ont plaidé pour lui. Il a été tellement dénigré par cette femme, il a été tellement que... Voilà, je voulais donner cet exemple parce que une cour d'assises n'est pas l'autre. Le tarif, on va dire, le tarif n'est pas le même, c'est du cas par cas. Moi, j'écris, je mets dans mes tiroirs pour le moment, viendra peut-être un jour. Ben, le tout est de garder cette passion et de garder. Moi, je ne le fais pas pour, dans un but lucratif ou dans un. Je fais pour moi-même. C'est comme quelqu'un qui ferait de la peinture ou qui. Voilà. Je le fais pas parce que ça me. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait et je veux laisser une trace autre que de la prose. Oyez, oyez, vous tous, braves gens. Vous les badauds, vous au volant, il y a un procès médiatisé à ne pas rater. Procès hors norme, celui de Storm, ce big enfant, qu'a toutes ses dents, une belle crinière, un cuit de savant. Il a tué, vous entendez, son père, sa mère, sa sœur aînée. Ça s'est passé dans les Marolles, au Capucin, numéro 20. La presse s'active et sur les dents, toutes les délais ont débarqué. RTL, RTB, VRT, sans oublier les quotidiens, les stars de l'écran. Des caméras et des PC, les photographes sont chevronnés, tous aux prises avec les prises. Ils guettent, ils sont en quête du meilleur angle, de la meilleure prise. Tout sera permis, dira Karine, mais interdit de filmer le jury, de filmer le petit. Mais oui, très chère madame, c'est bien promis. Où êtes-vous donc, paparazzi ? Une fois ces clips, une fois ces claps, viens là, grand-mère, que je t'attrape. Et toi, le grand, l'oncle Aléo, tourne-toi un peu, reste dans le champ. Si je te loupe, bye-bye le scoop et c'est Tintin. Ils sont venus, ils sont tous là, habitués, invétérés, curieux ou pas.
Et sans aspérité, qui ne représente rien du tout. Donc j'ai laissé parler de ça, c'est un peu comme de dire...
S'il est un avocat qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est bien Bruno Daillé. Chroniqueur pour La Libre Belgique, écrivain, très critique envers l'institution judiciaire, Maître Daillé considère que la présence d'un public en cour d'assises, et particulièrement des habitués, ne serait autre qu'un alibi démocratique. Et les rats de procès, comme il les appelle, le public d'une mise en scène, délibérément théâtralisé.
À Bruxelles, le fait est qu'on est en face du jury. La cour est latérale et le public, lui, il est tout à fait latéral et il est assez distant, ce qui fait qu'on n'a absolument presque pas de perception du public parce qu'il faudrait... On peut l'apercevoir du coin de l'œil, mais il est à peu près absent. Par contre, il y a une omniprésence, ces 12 jurés qui sont comme un ersatz du public, donc qui sont comme des gens issus directement du public. Et cela, on les a dans un face-à-face constant, y compris quand on ne plaide pas, parce que toute la durée des débats, on doit se tenir convenablement, parce qu'on est sous le collimateur de ces 12 regards qui scrutent vos mouvements et qui essaient de savoir dans quelle mesure ils peuvent vous faire confiance. De toute façon, tout dans la cour d'assises contribue à faire à la théâtralisation. Et donc, que ce soit la scénique, que ce soit les vêtements, que ce soit le fait qu'il n'y ait pas de... On ferme les rideaux, même en plein jour, on est dans une sorte de catafalque géant, le gigantisme de la salle, tout ça est en fait extrêmement oppressant.
Cette atmosphère oppressante, le bijoutier Léon-Philippe Rubin l'a subie de plein fouet en 2012. Attaqué par une bande de malfaiteurs, il se retrouve quelques mois plus tard au cœur de la cour d'assises en tant que partie civile. La foule dans son dos ne lui laissera pas un bon souvenir. Injures à la sortie du tribunal, menaces, cauchemars, décors dignes d'un film d'horreur, il lui aura fallu plusieurs mois avant de s'en remettre.
Donc pour le mettre... Attendez, excusez-moi, c'est bientôt 3h.
Ouais. Je suis sorti de là, je ne savais plus marcher. Épuisé, je ne savais plus. J'ai dû prendre un taxi pour rentrer à la maison. Je ne connaissais rien à la justice, mais absolument rien à la justice. Mais je me suis rendu compte que c'est quand même une grande pièce de théâtre, hein, avec ses acteurs, avec ses machins, et des fois avec des subtilités que je, moi, en personne, quelqu'un de droit, n'apprécie pas du tout, quoi. Vous avez non seulement la foule, le public, hein, les caméras de télévision, tout le bazar dans le dos, les journalistes, parce qu'il y a... Il y a deux rangées qui sont réservées pour les journalistes. De l'autre côté, vous avez la partie civile, vous avez le box avec les accusés. C'est pas tout le monde qui assiste à une cour d'assises, je veux dire, ou du moins dans sa vie, peut-être en tant que spectateur, peut-être, mais d'y être intégré, je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire dans une vie... j'ai été soit juré, soit témoin, ou dans une cour d'assises. Et donc, vous vous attendez à une sorte un petit peu de décorum, mais vous voyez carrément des gens qui ont été pissés dans les coins, ça fait un peu bizarre, quoi.
Retour au palais de justice. Parmi les quelques habitués des assises, on trouve peu de jeunes. La plupart sont retraités et fréquentent le palais pour passer le temps, comme d'autres vont au cinéma ou au théâtre. Ce n'est pas le cas de Tim Wouter, jeune journaliste âgé de 29 ans. Comme Raja Snoussi, il vient ici dans un but précis, écrire un livre à partir des procès tenus aux assises.
Je trouve ça correct de juger des gens ici. C'est un bâtiment qui est apte à ça. Un bâtiment qui respire plein d'histoires. Je pense que quand t'es avocat, tu peux plaider ici. Je pense que ça fait sortir le meilleur de toi. Et peut-être aussi quand t'es accusé, ben c'est impressionnant. C'est la dame justice qui... Tu es impressionné. Tu t'es pas amené dans une petite chambre qui ressemble à un salon. Où tu te sens vite chez toi. Et ici, t'es impressionné. Et je pense que c'était pas le plus grand bâtiment de l'Europe à l'époque, mais je pense que c'était le plus grand hall où le point, c'est plus de 100 mètres entre le sol et la coupole. Je pense qu'à l'époque, quand le bâtiment a été construit, c'était du jamais fait avant, quoi. Mon livre, pour la première fois, ça va vraiment se dérouler à Bruxelles. Je vais nommer des rues, des bâtiments, et du coup, ça va vraiment se passer... au palais de justice de Bruxelles. Je vais parler des graffitis, des échafaudages, de la salle vraiment, du sang sur l'escalier. J'ai vraiment envie d'être très assez descriptif, quoi. Comme un journaliste qui romance des faits réels. Quelque part, c'est ça que j'ai envie. C'est peut-être ça mon but ultime, quoi. De pouvoir suivre un procès de près, comme capote, d'être proche. Peut-être des accusés, parce que je suis appliqué, peut-être d'abord comme journaliste, et que du coup que j'arrive à être en contact, m'informer, et je fais un vrai récit sur un procès, sur un meurtre, quoi. Oui.
C'est à deux pas du palais de justice, au bar l'inattendu, que le chroniqueur judiciaire André Balthazar a pris l'habitude d'attendre entre deux audiences. Après 20 ans de cour d'assises, cet habitué malgré lui a vu l'institution évoluer au fil du temps, suscitant toujours plus d'attention. En cause, le développement des médias, mais aussi la délocalisation des procès, suivis aux quatre coins du pays.
La cour d'assises, c'est vraiment le... Ça fascine tout le monde, ça fascine à la fois le grand public, parce que on est dans les grands crimes, et ça fascine tout autant même les personnes qu'on pourrait dire blindées, entre guillemets. J'ai connu des gens, par exemple les familles qu'on rencontre des victimes qui viennent, elles sont, on sent qu'il y a quelque chose de majestueux, quelque chose de fort qui transparaît. Avant, une cour d'assises, elle était liée à l'endroit où elle se passait. Maintenant, on suit l'affaire de Gelder qui est en Flandre, autant à Liège qu'à Arlon, qu'à Bruxelles, etc. J'ai l'impression qu'une cour d'assises avant était l'espèce d'épicentre d'un phénomène qui bouleversait une communauté dans une petite entité qui revenait dans un arrondissement judiciaire, par exemple de Namur, et qui ne dépassait pas trop ça, sauf si y avait une affaire hors du commun, quoi. Voilà. Des grands procès en jeu aussi, quand quelqu'un nie devant les assises, comme les amants diaboliques, voilà. Donc jusqu'au bout, ils ont dit « c'est pas nous », et puis il y avait une histoire qui est digne d'un roman. On a mis la première fois les cages en verre un peu à l'italienne. Pour moi, c'était bien plus marquant que l'affaire Storm. Des affaires comme Amers ou Bouge, Beyer, qui durent 3-4 mois, c'est des procès qu'on n'avait quasiment jamais vus avant, quoi. Moi, j'ai toujours l'image de la croix quand on a sorti de la table, je veux dire, des pièces à conviction qui est verrouillée, etc. Quelqu'un avait demandé à sortir les pièces à conviction, donc une arme, ses yeux qui s'allumaient comme si on avait ces mots précieux, quoi, je veux dire, c'est vraiment ça, quoi, c'était incroyable, quoi.
André Balthazar ne parle pas seulement en tant que chroniqueur judiciaire. Tiré au sort en vue d'être juré en cour d'assises, le journaliste a alors pu se glisser, le temps d'un procès, de l'autre côté du miroir. Ses observations, un endroit vivant, humain, où l'on se parle énormément.
C'est une position privilégiée de laquelle on voit comment tout le monde intervient et comment tout le monde réagit. Il y a un groupe de... Allez, je veux dire une demi-douzaine, voire maximum une dizaine de personnes qui suivent ça, pas forcément de manière malsaine, simplement par habitude, pour occuper leur temps, et parce qu'ils aiment bien des avocats, ils aiment bien entendre, ils aiment bien suivre les affaires. C'est pas des corbeaux au sens péjoratif du terme. Bon, ils sont là, mais ils sont pas là pour en rajouter des couches et justement réagir au moment où quelqu'un dit quelque chose qui va en contresens. C'est très discret, il y a peu de réactions épidermiques dans le public. Moi, j'ai dû à 2-3 moments, quand je sentais mes enfants qui allaient devenir adolescents, de voir des quêtes de 15-16 ans qui étaient devant le tribunal, en me disant « tiens, putain, j'ai mes gosses qui pourraient tourner mal en ayant rencontré un dealer, un connard, un truc comme ça, et voilà. » Donc voilà, c'est des inquiétudes qui peuvent arriver. Des menaces, j'en ai rarement eu, j'en ai eu quelques-unes. Puis j'ai assumé, voilà. Fernande Modderade, qui est une des doyennes du barreau de Bruxelles, qui avait été désignée pour défendre un SDF qui avait massacré, violé, mais de la pire des manières, une fille qui avait atterri dans son squat. Et j'avais rendu hommage à la plaidoirie de cette dame, le gars était insauvable, hein, mais, mais elle avait fait son boulot jusqu'au bout et d'assister à un moment de vraie démocratie où on dit ce gars est le dernier des losers. Il a vraiment fait le pire saloperie à cette fille et quelqu'un est là pour le défendre et on a tendance maintenant à dire comment est-ce qu'on peut défendre encore quelqu'un comme ça, gna 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 gna. Et moi, d'avoir pu faire un petit article en disant, pour rendre hommage à l'avocat qui a su surmonter cet handicap cet handicap de c'était une partie perdue d'avance, hein, c'est clair. Mais dire qu'elle l'a défendu, elle l'a fait vraiment pas à la va comme je se pousse, elle a fait ça avec une dignité et tout ce qu'elle faisait. Et j'ai eu la place de l'écrire, de lui rendre hommage. Et c'est des moments journalistiques, c'est tout petit, non. Je peux faire les CCC, les grands bandits, des tas de trucs, mais voilà, c'est des petits moments dans la carrière d'un chroniqueur qui me reviennent, simplement.
Retour à Soigny, chez les Houbeck. Atteint d'un cancer de l'œsophage, Jacques ne sait pas encore s'il pourra retourner en cour d'assises. Son cancer, pourtant, ne l'a pas éloigné de son objectif, atteindre d'ici fin 2013 sa 100e assise.
C'est devenu une vocation. Une vocation inattendue de notre part, parce qu'on n'aurait jamais pensé se retrouver comme ça. Hein, du bon côté, hein. Du bon côté. Pas sur les bancs. Enfin.